Europe Midi. Thierry Dagiral.
Bonjour à tous, bienvenue, il est midi et demi. C'est la riposte de l'exécutif au scandale Pegasus, un conseil de défense exceptionnel ce matin à l'Élysée. Louis Dragnel, dès le début de ce journal. Le rapport était attendu, celui sur la panne des numéros d'urgence. Le 2 juin dernier, 12 000 appels n'avaient pu être acheminés. Est-ce la faute de l'opérateur Orange ? Réponse dans un instant. Saura-t-on un jour d'où est venue la pandémie ? Pas sûr. La Chine refuse que l'OMS poursuive son enquête. Nous serons en Chine pour les explications. Et puis les JO, cérémonie d'ouverture demain. Entre le Covid et les scandales, ça part mal. Et ça part mal aussi pour les Bleus en foot, écrasés ce matin par le Mexique 4-1. L'invité d'Europe Midi, Jacqueline Franjou, la présidente du festival de Ramatuelle. Il débute le 27 juillet prochain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le scandale Pegasus. Depuis les révélations du début de semaine, l'exécutif était resté très silencieux. Mais ce matin, le président Macron a tenté la riposte avec une réunion au sommet et à huis clos à l'Élysée, Louis Dragnel.
Oui, un conseil de défense exceptionnel qui a commencé avant 10 heures. Le message, après le choc, le début de la riposte ou au moins la mise en scène de la réaction de la France. Autour de la table, le couple exécutif, mais aussi les principaux ministres régaliens, les patrons des services de renseignement, ainsi que les chefs militaires. C'est d'ailleurs le premier conseil de défense du nouveau chef d'état-major des armées, le général Burcard. Alors, l'objectif de cette réunion est de faire le point sur l'avancement des investigations, notamment sur l'ampleur de l'opération d'espionnage. Autre enjeu, être en mesure d'attribuer avec certitude la responsabilité de l'attaque. À ce stade, on parle beaucoup du Maroc, mais il se pourrait qu'une autre puissance soit en réalité derrière l'opération. Enfin, le président souhaite dresser un diagnostic de la protection de la France dans le domaine cyber. Quelles sont nos failles et comment les combler ? Une certitude en tout cas, face à cette attaque inédite, Emmanuel Macron veut montrer qu'il mesure la gravité de la situation.
Les informations de Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. C'est l'autre information de la matinée, la présentation de l'audit du gouvernement sur la vaste panne des numéros d'urgence. Rappelez-vous, c'était le 2 juin dernier, pendant plusieurs heures, 6 décès sont survenus faute d'accès au secours public. On vous avait raconté, notamment sur l'antenne d'Europe 1, cette situation dramatique qu'a vécue Elsa. En rentrant du travail, cet externe en médecine croise la route d'un SDF blessé à la tête et avec d'autres passants, ils essaient de joindre les secours.
On est resté peut-être 20 minutes à essayer d'appeler le SAMU. En fait, ça coupait direct, genre ça sonnait même pas. Il n'y avait aucune messagerie, aucune attente. Au bout d'une seconde, ça arrêtait l'appel. Ça faisait ça avec une personne qui avait commencé à appeler et donc on ne comprenait pas. Donc après, j'ai appelé avec mon téléphone, ça m'a fait pareil, l'autre personne aussi, et on n'a pas compris pourquoi ça ne répondait pas. Donc on ne savait pas trop quoi faire. Je me suis sentie un peu impuissante, enfin, je ne comprenais pas. Encore là, son état, il était quand même stable, même s'il était blessé. Mais je me suis dit que bah, si j'étais en face d'une personne encore plus vulnérable ou une personne... je sais pas, qui est en train de faire un infarctus, un AVC ou n'importe quoi, bah, je peux pas agir en fait. J'ai eu peur pour les gens à qui ça aurait pu arriver à ce moment-là en fait.
Voilà, c'était donc sur l'antenne d'Europe 1 le 2 juin dernier. Bonjour Clément Le Saffre.
Bonjour.
Cet audit était attendu, il permet de faire toute la lumière sur cette affaire. Est-ce que c'est la faute, Clément, de l'opérateur Orange ?
Alors en partie, oui. Hein. Cédric O, le secrétaire d'État au numérique, a eu beau dire ce matin qu'il ne voulait pas, je cite, « jeter l'opprobre sur qui que ce soit ». Le rapport de l'État est assez critique vis-à-vis d'Orange. En fait, le 2 juin, l'opérateur a mené des actions visant à augmenter sa capacité de prise en charge des appels, des opérations de routine. Sauf que ce jour-là, ses commandes ont provoqué un bug logiciel dans les équipements chargés de dispatcher les appels d'urgence. Leur mémoire saturait après quelques centaines d'appels seulement, d'où la difficulté à joindre les secours. Alors le rapport estime que cette action d'Orange était, je cite, « hasardeuse », mais l'opérateur ne pouvait pas anticiper un tel bug. L'entreprise italienne Italtel, qui a fourni l'équipement buggé, est donc aussi mise en cause. En revanche, l'audit de l'État tense sévèrement Orange pour sa gestion de la crise. L'opérateur a mis trop de temps à informer les autorités et ses conseils techniques ont été insuffisants.
Alors voilà pour ce qui s'est passé. Maintenant, Clément, quelles leçons peut-on tirer de l'incident ?
Alors Cédrico a été très clair sur ce point. Il faut tout faire pour qu'un tel incident ne se reproduise pas. Orange va rester en charge de la gestion des numéros d'urgence. Pour rappel, l'opérateur gère seul la totalité de ce dispositif. Contacté par Europe 1, Orange s'engage à revoir ses process et ses organisations en lien avec les services de l'État. Mais pour ne pas laisser passer la moindre faille, le gouvernement souhaite en plus durcir le cadre légal de la sécurité des numéros d'urgence. Des exercices de crise seront aussi organisés régulièrement pour fluidifier la coopération entre les opérateurs et les autorités. Enfin, il n'est pas exclu qu'Orange soit quand même sanctionné. Le gouvernement va saisir l'ARCEP, le gendarme des télécoms, qui va évaluer si l'opérateur a manqué ou non à ses obligations lors de l'incident du 2 juin.
Clément Le Saffre du service économie d'Europe 1.
Thierry Dagiral vous informe sur Europe 1.
12h35, on en vient maintenant à la situation sanitaire avec cette quatrième vague clairement nommée par l'exécutif. Le port du masque est à nouveau obligatoire dans l'espace public dans certaines communes de Meurthe-et-Moselle, mais également en Vendée. Décision également prise par le nouveau préfet de l'Hérault, Hugues Moutou. Il était ce matin sur l'antenne d'Europe 1.
Je tiens à dire que ce que les commerçants ou les restaurateurs doivent incriminer, ce ne sont pas les décisions des pouvoirs publics, mais le comportement incivique de trop de Français qui ne se sont pas encore fait vacciner. Plus les Français se feront vacciner, moins nous serons obligés de prendre des mesures restrictives. Alors dans l'Hérault, nous sommes confrontés à une explosion du taux d'incidence qui a connu plus 250% en quelques jours à peine. Voilà pourquoi j'ai été contraint dès le lendemain de mon arrivée en tant que préfet de l'Hérault de prendre des mesures contraignantes sur le port du masque. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous, responsables publics, nous devons, et tous les relais d'opinion, doivent lancer un appel à la conscience civique des Français qui ne se sont pas encore fait vacciner.
Le préfet de l'Hérault dans la matinale de Théo Manval ce matin sur Europe 1. Alors quels sont les effets des nouvelles mesures concernant le pass sanitaire en vigueur depuis hier? Direction les Pyrénées-Orientales qui reste le département, vous le savez, le plus touché par cette reprise pandémique avec un taux d'incidence de 373 cas pour 100 000 habitants, soit 4 fois plus que le niveau national. Pour faire face à cette situation, la préfecture a imposé en plus un couvre-feu à 23 heures pour les bars et pour les restaurants. C'est un véritable coup dur pour les professionnels de la restauration. Ils assistent à une baisse de la fréquentation de leurs établissements. Le reportage à Perpignan est signé Henri de Laguérie.
Chaque midi et chaque soir, ils dressent les tables, jettent un œil en cuisine et accueillent avec le sourire les rares clients. Mais le cœur n'y est plus. Depuis dimanche, Pascal Nice doit fermer son restaurant à 23h. Un coup de massue alors que la saison commençait à peine.
En colère, ouais, c'est peu de le dire. Je suis désabusé, ça aussi c'est peu de le dire. On est d'ores et déjà à moins 50% de fréquentation.
Celui qui dirige le Guapo, ce bar à tapas haut de gamme dans le centre de Perpignan, va devoir mettre en chômage partiel certains de ses employés. Il dénonce des mesures injustes alors que les discothèques du département restent ouvertes.
Qu'est-ce qui se passe après 11h? Je vous le dis, hein, c'est des regroupements de jeunes, c'est des boîtes de nuit qui sont ouvertes, c'est des gens qui vont dans le département juste à côté, c'est des soirées privées. C'est l'incompréhension totale pour nous. Voilà. Et on tape toujours sur les mêmes.
Et l'arrivée du pass sanitaire n'arrange rien aux ennuis de ce patron. Un peu plus loin, Audrey Barmaid au Mistinguette se montre un peu plus compréhensive et pour cause.
Il y a eu plusieurs cas contacts dans plusieurs restaurants en centre-ville à Perpignan. C'est malheureux, ils ont dû fermer. Comme nous, on a dû fermer une semaine aussi la semaine passée. Donc voilà, ils sont obligés de faire ça.
Le couvre-feu pour les bars et les restaurants doit durer jusqu'au 2 août prochain dans les Pyrénées-Orientales, mais il pourrait être prolongé si les chiffres de l'épidémie ne s'améliorent pas. À Perpignan, Henri de Laguérie, Europe 1.
Et puis à l'Assemblée nationale, les débats se poursuivent encore aujourd'hui autour du projet de loi sur l'extension du pass sanitaire. Cela prend du retard après des échanges vifs hier. Il reste 900 amendements avant, bien sûr, la navette vers le Sénat. C'est une véritable course contre la montre puisque le gouvernement souhaite que la loi soit adoptée avant la fin du week-end. Parallèlement à cela, connaîtra-t-on un jour les origines de cette pandémie mondiale? Pas sûr. Alors que la théorie selon laquelle le Covid se serait échappé d'un laboratoire chinois revient en force dans le débat américain et mondial, la Chine rejette la proposition de l'Organisation mondiale de la santé de poursuivre l'enquête sur son sol. Sébastien Lebelzig, vous êtes le correspondant européen en Chine. On peut parler de divorce entre l'OMS et la Chine.
Oui, cette fois, on peut bien parler de divorce entre la Chine et l'OMS. Pékin, tout à l'heure, a refusé de poursuivre l'enquête menée par les scientifiques de l'Organisation mondiale de la santé sur les origines de la pandémie. Le vice-ministre chinois de la santé parle d'arrogance et de manque de respect, alors que le chef de l'OMS avait demandé la semaine dernière un audit des laboratoires dans les régions où les premiers cas de coronavirus ont été identifiés, c'est-à-dire une inspection fouillée des laboratoires de Wuhan, dont le fameux P4 et plusieurs laboratoires P3, car l'OMS n'exclut plus désormais la piste d'un accident de laboratoire. Toutes les hypothèses sont d'ailleurs sur la table, mais pas question pour Pékin de laisser quiconque mettre son nez dans ces zones ultra secrètes. Pékin nie toujours farouchement toute possibilité d'une fuite, et après avoir émis plusieurs hypothèses, la Chine pointe aujourd'hui du doigt un laboratoire américain, d'où selon elle pourrait venir le virus. Elle demande à son tour une inspection. Bref, un bras de fer entre la Chine et le reste du monde qui risque d'empêcher toute enquête sérieuse. La visite en janvier dernier des experts de l'OMS à Wuhan n'avait d'ailleurs rien donné.
Le correspondant Europe 1 en Chine, Sébastien Lebelzik. En Chine, toujours, les inondations dans le centre du pays ont fait au moins 33 morts et 8 disparus selon un dernier bilan. Des précipitations records qui se sont abattues mardi soir sur le centre du pays, engloutissant, on le sait, une partie du métro de Zhangzhou et emportant des centaines de véhicules. Retour en France avec cette démarche inédite. 6 organisations françaises et internationales de défense des droits de l'homme lancent aujourd'hui une action commune contre l'État français. Ils veulent mettre fin au contrôle d'identité au faciès. Elles saisissent pour cela le Conseil d'État. Il faut rappeler que fin janvier, les associations avaient adressé une mise en demeure au gouvernement pour demander d'engager des réformes pour mettre un terme aux pratiques policières discriminatoires. Mise en demeure laissée sans réponse jusqu'à aujourd'hui, Marion Dubreuil.
Oui, c'est un silence inacceptable pour ceux qui, comme Issa Koulibaly, 41 ans, ont subi des contrôles d'identité discriminatoires. Il est aujourd'hui à la tête de l'association parisienne Pas à Pas qui participe à cette action de groupe contre l'État français.
Ça fait vraiment partie des expériences les plus communément partagées par les jeunes des quartiers perçus comme noirs, arabes. Forcément, ça résonne en moi par rapport à l'humiliation que ça représente de se retrouver, par exemple, dans les couloirs du métro Belleville, à être obligé d'enlever ses chaussures et à voir sa voisine passer. C'est l'indicateur d'une mauvaise relation entre la police et sa population.
Maître Slim Benachour a déjà gagné plusieurs dossiers individuels de contrôle abusif. Le dernier en date concernait 3 lycéens contrôlés Gare du Nord en 2017. L'objectif est d'aller plus loin.
On a la possibilité, non pas de demander des dommages-intérêts comme dans les contentieux individuels. Là, on demandera à ce que le juge impose une réforme des contrôles d'identité.
Et d'après un sondage Opinionway réalisé en 2016, 14 millions de contrôles d'identité sont effectués chaque année. Les associations demandent la suppression des contrôles administratifs et l'évaluation des contrôles judiciaires sur des critères objectifs.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1.
Hanne Marie Orvik Andreasen. Kai Hauge.
Mona Abdenour. Ismail Haji Ahmed.
Vous l'entendez, la Norvège n'oublie pas des minutes de silence, des carillons. Vous l'entendez derrière moi, 77 victimes toutes citées ce matin. Même un discours du roi. Le pays commémore aujourd'hui l'un des épisodes les plus douloureux de son histoire. Le double attentat perpétré il y a 10 ans par le néo-nazi Anders Breivik. Le 22 juillet 2011, l'extrémiste de 32 ans déguisé en policier avait ouvert le feu sur un rassemblement de la jeunesse travailliste sur l'île d'Utøya. Juste avant, il avait d'abord fait exploser une bombe près du siège du gouvernement à Oslo. François Claus s'était alors rendu sur place pour Europe 1 extrait.
Un couple qui s'enlace dans la rue en larmes. Ils viennent d'apprendre qu'ils ont perdu hier soir un ami très cher. Les soldats, en gilet pare-balles, armes au poing, qui ceinturent tout le centre-ville, le silence, pesant, à peine troublé par le crissement des trams, Oslo est encore sous le choc. Abria, française d'origine algérienne, habite depuis 11 ans dans la capitale norvégienne.
C'est choquant et moi ça me fait beaucoup de mal parce que j'aime Oslo, j'aime l'endroit où je vis, quoi. Je pense que les gens ils sont bouleversés. Ce matin, j'étais très émue, j'en ai pleuré en voyant ça. J'ai pleuré en entendant qu'il y avait 80 jeunes qui ont été massacrés.
Voilà, extrait du reportage de François Claus à Oslo il y a maintenant 10 ans. Beaucoup de rescapés de cette tuerie estiment que la Norvège, 10 ans après, n'a toujours pas fait le procès de l'idéologie d'extrême droite qui a animé le tueur. 12h44 sur Europe 1, le sport à présent avec les JO. La cérémonie d'ouverture aura donc lieu demain, mais un nouveau scandale a éclaté. Ce matin, le responsable de la cérémonie d'ouverture a été démis de ses fonctions, et cela à cause d'une blague sur le low cost, blague qui remonte à plus de 20 ans. Décidément, entre le Covid et les scandales, ces JO vont se faire dans la douleur. Bonjour Julien Froment.
Bonjour.
Et ce matin, ce sont les footballeurs français qui ont donné le coup d'envoi des JO avec un match contre le Mexique, et c'est très mal parti.
Oui, début catastrophique pour les Bleus. Lourde défaite 4-1 face au Mexique après une première période soporifique. L'équipe de France a sombré en seconde période, 1-0 puis 2-0. C'est André-Pierre Gignac, une des vedettes de cette sélection, qui a redonné espoir grâce à un but sur pénalty. Mais les hommes de Sylvain Ripoll ont encaissé un troisième puis un quatrième but. Défaite logique, hein, une défense friable, un milieu de terrain inexistant et une attaque inoffensive. Cette équipe de France a manqué de tout pour espérer exister dans cette rencontre.
Alors sur le terrain, il y avait Thauvin, Gignac, vous l'avez cité. Pourquoi il n'y a pas de toutes les stars de l'équipe de France, Julien?
d'ailleurs? Eh bien parce que le tournoi olympique est réservé aux joueurs de moins de 23 ans et chaque sélection a le droit d'appeler justement trois joueurs de plus de 23 ans, donc Gignac, Thauvin ou encore TJ Savanier. Alors des garçons comme Kylian Mbappé ou le Rennais Eduardo Camavinga auraient pu figurer dans cette liste, mais le tournoi olympique n'est pas inscrit au calendrier de la FIFA, les clubs n'ont aucune obligation de libérer leurs joueurs. Résultat, le foot français s'est fait en quelque sorte harakiri en retenant leurs meilleurs éléments. Et on voit le résultat aujourd'hui, enfin plutôt ce matin, avec cette lourde défaite. Même si tout n'est pas perdu, il reste au bleu encore deux rencontres à disputer contre l'Afrique du Sud et le Japon.
On y croit. Julien Froment du service des sports d'Europe 1. On va terminer avec la chaleur, 36 degrés dans le sud, 30 à Paris, canicule dans les grandes villes. Et alors qu'il est difficile, on le sait, d'aller au cinéma ou dans les musées, comment font les touristes qui sont venus visiter la capitale pour trouver un peu de fraîcheur? Thibaut Hu est allé à leur rencontre.
Alors aujourd'hui, on va monter sur la tour Eiffel jusqu'en haut, donc je pense que ça va faire du bien au niveau de l'air. Et quand on a des enfants, hydratation, chapeau, casquette, et on les mouille assez souvent quoi, au niveau du visage.
Au niveau du planning, on a prévu de faire la tour Eiffel et l'Arc de Triomphe, et après des parcs à l'ombre, justement pour avoir un peu de fraîcheur. Là, il y a un petit courant d'air, donc on est bien.
Pour éviter que les enfants soient trop au soleil, finalement, on a décidé d'aller au Louvre parce que ça sera peut-être plus climatisé et surtout moins chaud, finalement.
Quand on se balade en dehors des heures de grosse chaleur, en fait. On va rejoindre le Jardin des Plantes en roller et on va essayer de longer les murs.
On ne craint pas le soleil, monsieur, hein ? Pas du tout. Après tous ces jours de pluie, c'est bien.
Voilà, Thibaut Hu à la rencontre des touristes parisiens. Justement, la météo.
Et oui.
Qu'est-ce qu'on fait, Marlène Durie? Il fait très chaud.
Oui, encore.
On longe les murs.
Oui, vous savez, c'est grâce au vent de terre. C'est un vent d'est qui est présent un petit peu partout en France. Et c'est ce qui explique la chaleur un petit peu partout dans notre pays, y compris en Bretagne et même sur les îles britanniques.
31 en Bretagne. Hein.
Oui, 31. Ça peut même monter jusqu'à 32 cet après-midi. Les îles britanniques aussi connaissent en ce moment une vague de chaleur. L'Irlande du Nord a battu des records de température hier après-midi. Alors en Bretagne, on va encore dépasser les 30, vous le disiez. On va retrouver à peu près les mêmes valeurs qu'hier sur l'ensemble du territoire. Sauf dans le sud-ouest, ça monte encore. Pic de chaleur, notamment en Occitanie, on attend 35 à 38 degrés, température sous abri, rappelons-le.
Oui.
Alors aujourd'hui, c'est la journée la plus chaude de la séquence dans les régions de l'ouest. Demain, ce seront les régions de l'est qui vivront leur journée la plus chaude. Elles seront encore dans une masse d'air chaud, à l'avant d'une goutte qui va nous arriver de l'Atlantique. Thierry, on aura l'occasion d'en reparler ce soir dans votre grand journal. Ce sont les orages qui arrivent et une alerte orange devrait d'ailleurs tomber dans trois départements bretons. D'ici là, je ne veux pas noircir le tableau parce qu'on va profiter, on va vivre ce moment présent. C'est le beau temps, le ciel bleu qui s'impose encore cet après-midi. Seulement quelques plaques de grisaille qui peuvent cacher le soleil sur le littoral méditerranéen entre les Bouches-du-Rhône et le Var. En montagne, un petit risque d'averse et c'est tout. C'est beau. C'est tout.
Et ce week-end, donc, c'est foutu.
Ah oui, les orages qui vont traverser le pays, absolument.
Les températures vont baisser aussi.
Fatalement.
Allez, revenez quand même dans le journal de 13h. Merci Marlène, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Midi, Thierry Dagiral.
Restez avec nous dans un instant, mon invité Jacqueline Franjou, la présidente du festival de Ramatuelle qui débute le 27 juillet prochain. De la difficulté d'organiser un festival en période de pandémie. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Thierry Dagiral.
1h10 sur Europe 1. Mon invité à présent, elle est présidente du festival de Ramatuelle. Bonjour Jacqueline Franjou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Vous êtes très sympathique.
Vous êtes dans le Var?
Je suis dans le Var.
Faites-nous rêver, il fait beau?
Il fait très chaud, il fait 36 degrés.
Ouais. Alors, nouvelle édition du 27 juillet au 11 août du festival de Ramatuelle dans le célèbre amphithéâtre en plein air bâti au milieu des champs d'oliviers à deux pas de Saint-Tropez. Une programmation 5 étoiles cette année, hein, on va la détailler dans un instant. Au total, 12 spectacles qui vont se succéder, précédés par les nuits classiques. C'est des nuits consacrées à la musique classique, c'est bien ça?
Des nuits consacrées à la musique classique avec M. Chamaillou, qui est un remarquable pianiste. Puis nous avons dû, malheureusement, en raison de Covid et des tenues sanitaires, ne pas inviter l'orchestre de Nice,
oui.
Mais simplement nous avons demander aux deux, à Marie-Pierre Langlamé, qui est une grande harpiste, et Vincent Lucas, donc de faire un récital, parce que 55 personnes sur scène, là,
c'est
fait très beau ici, mais vous savez qu'il y a un ennemi qui circule.
Et justement, quand on est patronne d'un festival comme celui de Ramatuelle, en plein air, avec du public, comment on repense les choses, j'imagine, quotidiennement, finalement, en fonction des mesures sanitaires et en fonction des allocutions présidentielles ou celles du Premier ministre?
On repense chaque jour. Déjà, on avait l'expérience l'année dernière, qui est très différente d'ailleurs de cette année. On avait pris toutes les mesures sanitaires, distanciation, masque.
Oui, parce que vous l'aviez tenu, maintenu.
L'année dernière, on l'a maintenu festival. Avec une jauge à moitié. Mmh. Cette année, la jauge est pleine, complètement. Donc, on maintient le festival, sauf si il y avait un danger imminent et qui nous signifie la préfecture, donc l'État. Mais là, pour l'instant, on tient, on prend toutes les dispositions. C'est-à-dire qu'on demande aux gens vraiment le QR code ou un pass PCR ou j'installe à l'entrée du théâtre une tente où une pharmacienne, un médecin feront passer des tests antigéniques. Mais je pense qu'il y a encore certainement 10 à 20% des gens qui n'ont pas encore réalisé que c'était absolument nécessaire si on devait aller au spectacle, au restaurant, etc. Puis comme vous le savez, il y a eu quelques petits problèmes dans quelques établissements tropéziens.
Bien sûr.
Donc voilà, donc prudence, le masque, l'antigène, c'est tout ce qu'on peut dire pour essayer de revivre normalement.
Pour vous, Jacqueline Franjou, ça veut dire quoi? Une organisation en plus? Ça veut dire un coût en plus également de contrôler ses passes, etc.?
Ben, ça veut dire une sécurité énorme. Ça veut dire vraiment contrôler chaque personne, que ce soit à la billetterie, par Internet ou quand elle arrive. Ça veut dire vérifier que tout le monde arrive bien avec un masque et respecte les procédures. Donc ça demande de la sécurité supplémentaire. Ça demande aussi de notre part des aménagements complémentaires comme on avait fait l'année dernière. Donc oui, ça représente un coût, je sais pas, qu'on peut évaluer pour toute la durée. En fait, c'est 17 soirs hein, avec la musique classique. Pas qu'on peut évaluer à 20 ou 30 000 euros. C'est-à-dire que ce sont des salaires des gens qui vont exercer la sécurité.
Et là-dessus, il n'y a pas d'aide?
Il n'y a pas d'aide sur ce problème particulier. Il y a de l'aide pour soutenir les festivals.
Bien sûr.
Je crois qu'ils ont été bien soutenus. Maintenant, c'est arrivé à toute vitesse, cette histoire-là. Donc, il n'y a pas d'aide particulière aujourd'hui. Mais nous, on l'avait prévu quand même en disant on risque quand même. On nous annonçait éventuellement une quatrième vague. Elle est là, je ne sais pas si c'est une vague ou si c'est un point particulier, je n'en sais rien, je ne suis pas médecin, mais en tous les cas, il y a effectivement un très grand nombre de cas, parce que je pense que la jeunesse qui est tellement brimée se retrouve, fait la fête, sans masque, et c'est comme ça que ça arrive. Hein.
Jacqueline Franjou, c'est un festival, on le sait, de grande diversité. Il y a du classique, il y a du théâtre, il y a de l'humour, il y a de la musique française. Et cette année, beaucoup d'artistes vous ont contacté directement parce qu'ils avaient envie de renouer avec la scène, de renouer avec le public. Hein.
La quasi-totalité des spectacles, des 17 spectacles qui se montent là, les artistes ont téléphoné pour demander, alors, vous faites le festival de Ramatuelle, oui, bien sûr, comme Gad Elmaleh, comme Souchon, comme Violet, mais aussi comme Éric Métayer, Myriam Boyer, enfin, tous ceux qui viennent, je veux dire, l'invitation ou la Maison du Loup, ils ont demandé à venir à Ramatuelle, et moi, je leur demande aussi. Finalement, on a refusé, d'ailleurs, un certain nombre de spectacles, parce que on avait une jauge pendant 3 semaines insuffisante, mais on n'a pas perdu notre temps non plus, puisque on a fait 2 autres choses, rendre un hommage à Juliette Gréco.
On va en parler dans un instant, justement.
Et puis un festival de cinéma. Voilà.
On va détailler cette programmation, vous l'avez évoqué, il y aura Gad Elmaleh qui va dévoiler son nouveau spectacle intitulé « D'ailleurs ». Spectacle qui a été repoussé à plusieurs reprises en raison de la crise sanitaire. C'est un moment important, un premier spectacle à Ramatuelle.
C'est toujours un moment important, le premier spectacle à Ramatuelle, parce que les gens attendent l'ouverture. Qu'est-ce qui va se passer? Et Gad Elmaleh, je pourrais faire 2 soirs ou 3 soirs avec Gad.
Ouais.
Et en fait, un spectacle comme celui de Gad Elmaleh lance la saison. De la même manière, je termine souvent une saison de Ramatuelle par un artiste de variété pour donner rendez-vous à l'année prochaine. C'est-à-dire commencer dans la joie et finir aussi dans la joie.
Ouais. Alors, dans la programmation, il y aura également Benjamin Biolay pour son album Grand Prix, qu'on écoute un peu.
Comment est ta peine? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne.
Voilà, Benjamin Biolay, c'est l'artiste masculin de l'année, récompensé aux dernières victoires de la musique. Il a reçu le prix du meilleur album. Cela annonce un moment d'exception dans cet amphithéâtre en plein air.
Ça Ça annonce un moment d'exception à double titre. D'abord parce que c'est la première fois que nous recevons Benjamin Biolay. Oui. Et la deuxième chose, c'était un des auteurs préférés de Juliette Gréco. Donc c'est la deuxième raison où là aussi on rendra un hommage à Juliette.
Autre personnalité, Philippe Catherine avec son dernier album Confession. Philippe Catherine, Jacqueline Franjou, c'est un style particulier. Ses concerts annoncent oui. souvent des événements inattendus, parfois fantasques.
Oui, il est fantasque, mais en fait, il flirte avec tous les styles. Il passe de la bossa nova, très angoissée de ses débuts, au rock, ouais. À la musique électronique. Donc, il est, je dirais, à la fois iconoclaste et très moderne. Donc, je trouve que... On dit toujours que c'est l'enfant terrible de la chanson française.
Oui, oui, il peut se passer n'importe quoi sur scène ouais. quand même.
Et donc il peut faire n'importe quoi sur scène et on est ravis. D'ailleurs, ah oui. on accueille sa femme dans Missia Certe 2 jours avant. Ouais.
Et puis vous l'avez évoqué à 2 reprises déjà, cette édition va rendre hommage à la grande Juliette Gréco disparue en septembre dernier.
T'es toute nue sous ton poule, y'a la roue qui est ma jolie môme. À ton cœur, à ton cou et le bonheur par en dessous, joli môme.
T'as la rimée. Jacqueline Franjou, en 1985, il y a 39 ans déjà, elle crée l'événement, elle clôture le festival de Ramatuelle par un concert. C'était le premier festival de Ramatuelle présenté à l'époque par Jean-Claude Brialy. Vous étiez présente, vous, Jacqueline Franjou?
Ah ben, j'étais présente, oui, parce que j'étais élue à Ramatuelle. Ouais. C'est moi qui ai présenté au conseil municipal la construction de ce théâtre. Mmh. Donc, Juliette a clôturé effectivement le festival 1985. 8 jours après, elle m'a téléphoné. Nous ne connaissions pas. Elle m'a dit, je voudrais venir habiter chez toi avec Gérard parce qu'il faut que je me trouve un terrain pour me construire une maison. Ouais. 8 jours après, 8 ans après, elle m'a téléphoné. Elle m'a dit, rends-moi un service. Je voudrais que tu nous maries, ce que j'ai fait, car j'étais officier d'état civil. Et puis, il y a 30, 35 ans, 6 ans, qui se sont écoulés comme ça. Et elle est partie et a été, je crois, très heureuse ici parce qu'il y a une particularité, c'est qu'elle a voulu que sa maison, la seule qu'elle ait fait construire d'ailleurs, soit construite par l'architecte du théâtre de Ramatuelle, qui est Serge Meige, parce qu'elle disait ce théâtre est né de la terre et Gérard Philippe a dû déposer... une plume de son air d'archange. Donc voilà.
Donc hommage bien sûr cette année à la grande Gréco avec une exposition, le festival de Ramatuelle. On redonne les dates, c'est du 27 juillet jusqu'au 11 août et on peut réserver bien sûr par internet à l'adresse.
Et surtout à Saint-Tropez, place Jean Despas du 1er août au 12 septembre.
Et réservation sur le site festivalderamatuelle.com. Merci infiniment Jacqueline Franjou, bon festival à vous, merci.
Et passez un bon été, protégez-vous surtout.
Merci à vous.
On vous embrasse.
Europe Midi, Thierry Dagiral.
Allez, dans un instant, le journal de 13h, puis La France bouge. Je vous donne rendez-vous bien sûr ce soir à 18h. Bel après-midi à tous sur Europe 1.